Cette émission va être centrée sur la biographie dessinée d'Emma Goldman, femme et anarchiste, et cette icône justement de l'anarchisme et du féminisme se situe au moment de l'avènement du capitalisme, à la fin du 21e siècle, alors, de la fin du 19e siècle, pardon. Alors, c'est pas l'avènement à proprement parler, mais puisqu'il était déjà déployé, mais c'était un capitalisme industriel qui devenait de plus en plus violent. Donc, Emma Goldman est une pionnière du féminisme libertaire. Les deux autrices, Léa Gauthier et Hélène Aldeguer, seront avec nous dès 14h10 pour nous présenter cette femme combattante dont les luttes résonnent pleinement aujourd'hui. Alors, je souhaite démarrer cette émission avec un hommage à Edika, qui est décédé le 16 décembre, à l'âge de 85 ans, un âge extrêmement... c'est la pleine jeunesse. Alors, Edika, son vrai nom, c'est Édouard Carali, et c'était le frère de Carali, qui était aussi important dans la bande dessinée, notamment parce qu'il a dirigé Le Psychopathe pendant pas mal d'années. Alors, c'est un auteur de Fluide Glacial. C'est important parce que, au niveau des revues, le lien entre une ligne éditoriale et un auteur est toujours important. Et Fluide Glacial a été créé par Gottlieb, qui avait donc un humour à la fois narratif et graphique, avec une puissance de dessin incroyable, donc les effets comiques étaient très importants, et il pouvait aussi être seulement scénariste. Il y a notamment donc des histoires avec Franquin, à la mise en image, qui font absolument merveille. Donc, Edika a pu déployer son œuvre dans ce journal de Gottlieb et il a fonctionné avec ce principe des histoires courtes et ça lui convenait parfaitement. C'est-à-dire que les récits faisaient 4, 5, 6 pages et étaient donc extraits directement du journal pour leur mise en album. Alors à chaque fois, la mise en album était toujours un moment important. Ça permet au lecteur d'avoir cette intensité d'Edika avec cet ensemble d'histoires qui sont compilées ainsi. Et il y a donc une touche supplémentaire qu'apportait l'album, c'était la couverture. Edika a été extrêmement efficace, pertinent, incisif, avec les couvertures non seulement de ses albums, mais aussi de la revue Fluide Glacial elle-même. Donc rien que par ces couvertures, on peut rentrer dans l'œuvre décalée, barrée, délirante, réjouissante, où il n'y a aucun attendu possible. Tout peut advenir. Et c'était la grande force d'Edika, c'est d'avoir créé, avec ces histoires, une sorte de famille de papier où on avait, par exemple, des peintres poétiques, des athlètes à la grâce bodybuildée, qui étaient toujours sorte de concurrents du personnage de dessinateur qui était Bronski Proko et avec le chat Clark Gable et ces divas à forte poitrine qui sont assez très souvent présentes dans les histoires d'Edika. Il y avait là-dessus bien évidemment un regard extrêmement libre, et ça c'est vraiment le maître mot de l'œuvre d'Edika. C'était d'ailleurs assez difficile de pouvoir l'interviewer parce qu'il considérait que ce qu'il faisait était tout à fait naturel et normal et qu'il ne voyait pas pourquoi on allait qu'il allait expliquer la façon de créer ces histoires. Donc on a cette trame où une situation va pouvoir se déployer, qui va pouvoir s'emballer, et ça c'est vraiment une grande réussite, où en 4-5 pages, on a un récit qui s'emballe, et on reste là en tant que lecteur, non seulement avec le sourire aux lèvres, mais avec une joie intérieure absolument remarquable. Et c'est un des grands plaisirs, et on peut replonger dans l'œuvre d'Edika, on a l'impression qu'elle ne perdra jamais, quelle que soit la période après laquelle on va la lire, elle ne perdra jamais son côté puissant et toujours, toujours joyeusement provocateur. Edika est un dessinateur aussi avec un sens du gag graphique, donc les deux narrations délirantes et gag graphiques était toujours, là aussi, comme intimement ancré en lui. Il y a une histoire qu'on peut citer où deux personnes essayent de rentrer en même temps dans les toilettes d'un train. La case est bien sûr exiguë, comme la porte des toilettes du train. Et puis, il force et ça, au moment où ils arrivent à rentrer, c'est le délire le plus complet. En quelques pages, il trouve une issue à cette histoire absolument inattendue. Et à chaque fois, le dessin fait systématiquement mouche. Donc c'est un des piliers de Flux Glacial qui s'éteint. C'est donc un autre journal depuis quelques années, puisque les éditions Bambou avaient racheté le titre aux éditions Audi. C'est toujours Flux Glacial qui va publier les albums, mais le journal est celui des éditions Bambou. Et donc, la marque reste, mais l'ambiance n'est plus tout à fait la même. Alors, il y avait deux tandems, un tandem fort, il y avait deux piliers au journal Flux Glacial créé par Gottlieb. Il y avait Binet qui était l'auteur des Bidochons et donc Edika avec ses histoires complètement délirantes. Donc on peut dire qu'Edika Binet était le tandem de Flux Glacial. Merci, merci Edouard Carali, merci Edika pour ces moments de bonheur dans lesquels nous pourrons replonger grâce à cette série d'albums publiés par Fluide Glacial. Alors, on va démarrer avec la première musique proposée par Léa Gauthier, qui est donc la scénariste de cette biographie Elma Goldman, femme et anarchiste. Et c'est un morceau de Kiki Rockwell, Burn Your Village. Et après. Thank you.
You can slay the dragon like a motherfucking man. But give me 3 days, you'll both be eaten from my hand. Mother, sister, son, I am the divine goddess of the sun. Nurse, summoner, virgin, bitch, I am the virtual daughter of the witch.
Dans les premières pages de cette biographie d'Emma Goldman, elle exprime « C'est aussi ça, écrire mes mémoires. C'est pas juste raconter une vie de militante. C'est tout revivre. C'est sentir à nouveau la violence des sentiments, de nos contradictions. » À travers la vie et les luttes d'Emma Goldman, Léa Gauthier balaye, vire tout le fatras des propos sur l'anarchisme et le féminisme que l'on cherche toujours à discréditer. Se révèle au fil des pages Emma Goldman, figure de proue d'un engagement politique radical. Elle sut dire que la cause des exploités impliquait une remise en cause conjointe des oppressions, celle des travailleurs, des femmes, des enfants, des mœurs. Elle a lutté pour l'émancipation matérielle, intellectuelle et humaine de toutes et tous. La scénariste Léa Gauthier, philosophe, autrice et traductrice, entrelace ce temps de l'écriture de ses mémoires à la fin des années 20 et les combats, les luttes de cette icône anarchiste et féministe, pionnière d'un discours politique dans un monde d'hommes. Léa Gauthier a publié en octobre l'essai « Trois femmes en colère », Emma Goldman, Voltairine de Clare et Lucie Parson, où l'autrice révèle comment ces femmes ont engagé un combat contre l'exploitation salariale pour Lucie Parson, pour l'éducation pour Voltairine de Clare et pour la liberté des corps pour Emma Goldman. Léa Gauthier est avec nous pour partager avec nous cette vie d'Emma Goldman, femme et anarchiste. Bonjour Léa Gauthier.
Bonjour.
Alors, vous avez publié cet essai, « Trois femmes en colère ». Il y a cette bande dessinée, cette biographie dessinée d'Emma Goldman, femme et anarchiste. Quel est votre rapport avec la bande dessinée et pourquoi ce choix d'une biographie dessinée pour Emma Goldman?
Alors plusieurs choses, comme vous le disiez en fait, j'ai traduit beaucoup de textes dans la petite collection chez Payot sur l'anarchie de Voltairine de Clare, d'Emma Goldman, de Lucy Parsons, mais ce sont des essais. Chaque fois. Ensuite, j'ai écrit l'essai littéraire « Trois femmes en colère ». Et pareil, même si j'ai adopté un style volontairement accessible, ce n'est pas un essai théorique, ce n'est pas un essai difficile d'accès, mais la bande dessinée me semble être un médium extrêmement important pour donner corps à Emma Goldman. Vous parliez d'icônes en introduction, justement pour la dépenter au musée. La première page de la BD, en fait, c'est juste une dame qui cueille des roses dans son jardin. Et en fait, c'était rendre Emma Goldman accessible à tous, lui donner un corps, lui donner une accessibilité. En fait, si on cherche une image sur Internet d'Emma Goldman, on trouve un visage qui est fermé, qui ne donne pas envie. On a l'impression comme ça que c'est effectivement une combattante, une militante politique qui est austère. Or, c'est pas du tout ça, Emma Goldman. Emma Goldman, c'est une femme qui aimait vivre, qui aimait faire d'amour, qui aimait les gens, qui avait un humour de dingue et qui considérait que sa lutte politique était indissociable de son mode de vie. Et la BD permet vraiment, en fait, je trouve, cette manière de mélanger tous les aspects. Et avec Hélène Heidegger, c'est bien ce qu'on a voulu faire, c'est-à-dire lui donner un corps et lui donner un entourage et la mettre dans sa vie, dans une vie, dans une quotidienneté. Et Magelman, comme vous le disiez en ouverture également, nous avons commencé le récit par la fin, en un sens, au moment où elle écrit son autobiographie, lorsqu'elle est à Saint-Tropez en 1928 et qu'elle va bientôt fêter en 29 son anniversaire. Donc il y a des gens qui viennent, des personnes, des femmes de générations différentes, qui viennent l'aider à retranscrire son manuscrit pour en faire la autobiographie, mais il y a également tous ses amis qui viennent, qui ne sont pas forcément que des militants, et donc c'est la replacer en fait dans une vie accessible à tous, dans une vie simple. Vous voyez ce que je veux dire ?
Très bien.
Et voilà. Et le médium de la BD, c'était vraiment ça.
Voilà. Alors, Léa Gauthier, il y a pourtant dans la vie d'Elma Goldman des luttes qui sont d'une très grande intensité. Il y a des discours importants, la façon de mobiliser une foule. Est-ce que cette lutte et cette intensité dans la lutte n'en fait pas non plus une icône aussi assez exceptionnelle ?
Oui, c'est vraiment un personnage qui a été étrangement, on va dire, accaparé par l'histoire. Dans un sens, elle a été née sous le tapis de l'histoire, c'est-à-dire qu'elle a été redécouverte plus ou moins dans les années 70, mais on a pris essentiellement son pan féministe et non pas son engagement anarchiste. On a un peu dissocié ces deux choses-là. Mais c'est vrai qu'à son époque, Emma Goldman était une personnalité qui était connue de tous aux États-Unis, c'est évident, mais également en Europe, en Russie, en Amérique du Sud, pour partie. C'était vraiment un personnage qui avait su trouver une manière, alors que c'était une toute petite femme dans un univers qui était quand même très machiste et très puritain. Elle savait haranguer les foules, effectivement, comme vous le disiez, lorsqu'elle s'adressait aux grévistes, lorsqu'elle s'adressait aux travailleurs, ou lorsqu'elle s'adressait à d'autres classes, parce que c'était également une de ses volontés, c'est-à-dire de ne pas cantonner les discours anarchistes à une seule classe sociale. Elle avait une ampleur incroyable, mais ce qui nous semblait important, Hélène et moi, c'était justement, on peut être une femme puissante, avoir une aura incroyable, mais être dans la vie. Vous voyez, ne pas séparer des choses. Et c'est clair que c'est l'une des premières femmes, avec Voltairine de Clare, qui, alors que naissait aux États-Unis le capitalisme industriel le plus débridé, bien plus débridé qu'il ne l'était à cette époque en Europe, a su montrer qu'on ne pouvait pas penser en fait la structuration d'un mouvement social et une émancipation des travailleurs sans penser aux travailleuses, sauf que les travailleuses, ce ne sont pas uniquement justement des machines à produire au sein de l'industrie, ce sont également des femmes, des corps, des pensées, et donc il y a tout un travail d'émancipation conjoint qui doit se faire, et c'est l'une des premières qui arrive à articuler ça, et c'était très très compliqué à son époque, parce que je parlais de puritanisme aux États-Unis, mais il y avait également aussi une dominante masculine, et au sein même d'une pensée libertaire, qu'elle soit socialiste ou anarchiste, il était très très compliqué de faire passer en fait les questions de régulation de naissance, de contraception, d'avortement, d'amour libre. Pour ça, pour les militants, on va dire, c'était des questions qui étaient à la limite superficielles, voire anecdotiques. Et elle a su le mettre en place. Donc effectivement, c'est une personne qui a tenu des propos qui, encore aujourd'hui, sont d'une actualité redoutable. Au prorata de l'actualité politique aux États-Unis notamment, elle reste extrêmement contemporaine. Mais voilà, néanmoins, vous savez, on parle souvent du burn-out, il y a un livre d'ailleurs à ce sujet, du burn-out du militantisme. Je pense que le burn-out du militantisme est inévitable lorsque justement on ne sait pas allier la vie avec son action politique. Et encore une fois, dans la BD, Emma Goldman, femme anarchiste, c'est bien ce qu'on a voulu mettre en avant. Elle a milité toute sa vie, de 16 ans, ou de 20 ans, disons, jusqu'à la fin de ses jours. En fait, et avec une vivacité incroyable. Et elle n'a pas pu le faire, en fait, sans justement cette alliance avec son existence, avec ses complicités militantes, avec ses amours, avec ses amitiés. Je pense que ça apparaît dans la citation que vous faisiez au début. Lorsqu'elle écrit ses mémoires, elle revit tout. Pour elle, en fait, l'anarchie, ce n'est pas une pensée, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, c'est ici et maintenant, et c'est dans l'existence. Voilà.
Alors, Léa Gauthier, comment avez-vous pensé cette biographie pour qu'on ait à la fois la dimension des luttes, la dimension d'Emma Goldman, femme militante, et aussi cette volonté de libérer les corps? Qu'est-ce que vous avez abandonné comme partie de sa vie? Qu'est-ce que vous avez sélectionné, choisi pour vraiment faire de cette biographie un portrait puissant d'Emma Goldman?
En fait, il faut savoir que l'autobiographie d'Emma Goldman fait plus de 1800 pages. Living My Life, ça a été traduit en français, ça s'appelle Vivre ma vie. Donc effectivement, vous voyez bien 1800 pages écrites et une BD de 160 pages, c'est clair qu'il fallait faire des choix. Alors, le parti pris du présent de narration au moment où elle écrit son autobiographie, effectivement, ça a été une sorte de levier. C'est-à-dire, on est à Saint-Tropez en 1928 et elle se replonge dans son existence et il y a ses amis et il y a ses camarades et il y a les personnes qui l'aident à travailler. Donc, en fait, ce présent de narration 1928-1929 permet de faire des flashbacks qui ne sont pas uniquement ceux d'Emma Goldman, mais qui sont aussi ceux des gens qui sont là à Saint-Tropez à ce moment-là pour éclairer, en fait, ce personnage sous des angles différents. Et Hélène en parlera ensuite, mais dès lors, elle a mis en place une palette chromique, des variations de tonalité et de couleur qui permettent, en fait, pour le lecteur de se repérer dans l'histoire. Et oui, il y a énormément de choses, inévitablement, qui ont été abandonnées. Le fait qu'elle travaille avec May Piqueray, qui est une militante anarchiste française, qu'on a hélas oublié, mais qui était beaucoup plus jeune qu'Emma Goldman, le fait qu'elle travaille avec Emily Coleman, qui, elle, est plutôt libertaire, mais qui n'est pas forcément militante, qui n'a pas forcément une culture politique, permet aussi de faire des raccourcis, c'est-à-dire que lorsqu'elles travaillent sur l'autobiographie ensemble à Saint-Tropez, de temps en temps, Emma Goldman est obligée, en fait, de raconter à ces deux jeunes femmes un peu d'histoire de manière directe. Donc voilà, il y a tout ce moment à Saint-Tropez qui est à la fois celui de la transmission et celui de la fête avec ses amis, puisqu'elle a fêté donc ses 60 ans à Saint-Tropez. Et puis ces flashbacks, alors effectivement dans les choix, c'était éclairer des moments essentiels pour elle. Lorsqu'elle arrive à 20 ans dans le milieu anarchiste new-yorkais, alors qu'elle était aux États-Unis après avoir quitté l'Empire russe à 16 ans, et qu'en fait, elle s'aperçoit qu'elle a quitté un milieu extrêmement oppressant, un empire russe très verrouillé. Elle pense que les États-Unis sont une terre d'émancipation et de liberté. Elle travaille à Rochester, dans l'État de New York, et elle, dans une usine de tissus. Et elle s'aperçoit qu'en fait, l'oppression est sous les yeux et a un autre visage. Mais elle n'arrive pas à le comprendre. Et lorsqu'elle arrive petit à petit, en fait, à déchiffrer les choses, mais de manière très autodidacte, elle comprend que là se met en place un asservissement qui n'est pas l'asservissement qu'elle a pu voir, qu'elle a pu vivre dans l'Empire russe, mais qui est d'une violence redoutable. Et effectivement, l'anarchie lui donne des outils pour lire ce qui est en train de se mettre en place et qui est très novateur, qui est très, enfin novateur, oui, novateur, qui est très, qui n'a pas la même envergure que ce qui se passe en Europe ou en Russie, qui est vraiment très très différent. Et que, bon, pour nous aujourd'hui, le capitalisme industriel est une sorte d'évidence mondialisée, mais à ce moment-là, c'était vraiment le début. Et l'anarchie lui donne les clés de lecture, en fait. Et donc ça, c'est un moment crucial lorsqu'elle arrive à New York, donc elle a 20 ans. Ensuite, un autre moment crucial de sa vie, c'est lorsqu'elle est emprisonnée après avoir fait un discours à Union Square à New York en 1893, alors qu'il y a une crise extrêmement violente et que des millions de gens sont dans le désarroi, sur les routes, ont faim, n'arrivent pas à survivre, tout simplement. Elle prononce ce discours et elle dit simplement, bah, allez devant les maisons des riches, demandez-leur du travail. S'ils ne vous en donnent pas, demandez-leur du pain. S'ils ne vous donnent pas du pain, prenez le pain. Et à cause de ça, elle est arrêtée et incarcérée sur l'île de Blackwell Island, à New York. Et il n'y a pas eu d'insurrection après son discours, évidemment, mais pourtant, elle est accusée d'incitation à l'émeute. Et lorsqu'elle est incarcérée, elle découvre en fait une sorte de sororité avec les autres prisonnières. Et malade, elle va à l'infirmerie et un médecin en fait lui permet de prendre en charge le quotidien de l'infirmerie. Et donc elle voit au plus près la souffrance des corps de femmes. Et elle dit d'ailleurs, je remercie l'État de New York de m'avoir incarcérée, parce qu'en fait, ça m'a offert une émancipation personnelle. J'ai pu moi-même comprendre et sentir la souffrance à ce point, et j'ai pu m'émanciper aussi de mes mentors. Les mentors qu'elle avait rencontrés à New York lorsqu'elle avait 20 ans. Et à l'issue de, lorsqu'elle est libérée, elle va aller ensuite en Europe, en Autriche notamment, où elle va suivre les séminaires de Freud et elle va obtenir deux diplômes, un de sage-femme et l'autre d'infirmière. Et cette dimension du soin des corps est une dimension extrêmement importante dans le militantisme de Emma Goldman. Ce n'est pas juste une femme qui est sur les piquets de grève, ce n'est pas juste une femme de discours ou d'écriture, c'est une femme qui est, encore une fois, dans sa pratique de soignante, au plus près de la souffrance de tous et de toutes.
Alors, Léa Gauthier, c'est vous qui avez fait la sélection musicale. Alors, on va écouter le morceau de Solane, Rome. Alors, vous dites, parce que nous sommes de sales connes, en colère, mais ironique, harmonieuse, constructive, ici et maintenant. C'est une filiation directe, finalement, avec Emma Goldman.
Oui. Oui, je parlais de sa contemporanéité et je pense qu'effectivement Emma Goldman aujourd'hui est une figure à redécouvrir, à souffler sur les poussières de l'histoire, a vraiment l'intérêt, cette amnésie dans laquelle on vit, ce présent permanent qui nous fait oublier des sortes de figures qui ne sont pas encore une fois à panthéoniser, mais qui sont vraiment à revisiter dans le sens où ce sont nos aïeuls qui peuvent nous donner des armes. Voilà, effectivement, entre la jeune femme dont j'ai proposé à Solane la chanson et Emma Goldman, pour moi, il y a une filiation directe parce que sa lutte à Emma Goldman est une lutte qui vaut aujourd'hui. Et à travers aussi cette chanson, c'était de dire, en fait, voilà, ce n'est pas juste le récit de la vie d'une militante du passé. C'est une femme qui a vécu pleinement, qui a combattu pleinement et qui a aujourd'hui encore à nous dire beaucoup de choses. Et à travers tout son parcours, on peut avoir des armes, on peut retrouver des armes. Parce que l'anarchie, ce n'est pas la violence, le chaos, c'est savoir que ici et maintenant, à nos échelles, on peut faire des choses. On peut se l'approprier de plein de manières. Ça peut être l'écriture, ça peut être la chanson, ça peut être l'art, mais ça peut être aussi une manière d'être simplement avec les autres et d'agir contre les injustices. Mais c'est à notre portée. C'est-à-dire que ramener en fait à une échelle du quotidien ce qu'on nous impose, enfin ce qui nous semble lorsqu'on regarde sur la toile, lorsqu'on regarde les infos, lorsqu'on lit les journaux, etc. On a l'impression en fait que ce qui se passe est absolument nous écrase et c'est inéluctable. On n'a pas d'action, pas de moyens d'action. Or la vie d'Emma Goldman nous dit ah ben si en fait on a nous la possibilité déjà de dire non, de pas tendre l'autre joue, et en plus de charrier l'espoir et d'enchanter nos présents et d'enchanter nos devenirs, même si c'est compliqué.
Merci beaucoup Léa Gauthier. Donc on va écouter Solane et puis on discutera avec Hélène Aldeguer qui est dessinatrice et qui a dû participer bien sûr à la conception.
Oui, c'est vraiment un binôme.
Ouais. Voilà, merci. Binôme. Merci Léa Gauthier.
Merci beaucoup, merci. Au revoir. Au revoir.
Je me sens comme un agneau qui dit pardon au loup d'avoir été trop lent à lui offrir son cou, d'avoir pris trop de place, d'avoir trop résisté, d'avoir vu sa robe de rouge se tacher. Cette jungle me doit des mea culpa, l'appel à marcher entrera autour et yen. Et je compte même plus les fois où on m'a traité de chienne. Non, je compte même plus les fois où on m'a traité de chienne. Mais c'est une chienne qui a élevé Rome. Les putes comme moi. Insomnie, sans l'ombre d'une main qui flotte et se pose sur ma cuisse. Cette ville me doit des mea culpa, la chaîne à marcher entre les rois qui tuent les reines. Et je compte même plus les fois où on m'a traité de chienne. Non, je compte même plus les fois où on m'a traité de chienne. Mais c'est une chienne qui a élevé Rome. Les putes comme moi.
Pour la mise en image de cette biographie d'Emma Goldman, Hélène Aldeguer a créé un système graphique libéré des exigences d'un réalisme historique si souvent à l'œuvre. La mise en couleur situe immédiatement l'époque de l'écriture des mémoires à la fin de la vie d'Emma Goldman et celle des combats, des luttes, des engagements contre la violence de ce capitalisme industriel florissant à la fin du XIXe. Le trait léger, d'une grande finesse, laisse une grande place à la couleur. Il représente avec précision chacun et chacune des acteurs de cette période intense. Expressions gestuelles font sens des sentiments, les lieux témoignent du quotidien, des luttes. Les foules sont présentes et rappellent l'intensité des combats. Un dessin au plus près des protagonistes, une palette de couleurs réduite au plus près de cette icône qu'était Emma Goldman, dégagée de tout diktat de la bande dessinée habituelle. Nous sommes avec Hélène Aldeguer pour qu'elle nous révèle les processus de création de cette mise en image. Bonjour Hélène Aldeguer.
Bonjour et merci de me recevoir.
Alors, une question, comment avez-vous participé avec Léa Gauthier à l'écriture, à la conception de cette biographie et comment avez-vous défini sa mise en image? Alors, ça fait deux grandes questions, mais on y va.
Oui, bah c'est vrai que c'est Léa qui avait apporté le sujet, mais moi, c'était une figure que je connaissais personnellement par l'histoire et les références libertaires, mais pas dans tous ces détails-là. Et ce que m'a permis de découvrir Léa aussi, c'est l'intimité de cette femme, et elle m'a apporté beaucoup d'iconographie aussi, propre à l'époque, que ce soit les États-Unis fin 19e ou aussi la Russie, et même ensuite la fin des années 20 dans le sud de la France, et un peu d'iconographie aussi des personnages historiques. Il n'y en avait pas beaucoup, et c'était pas toujours très... très vivant comme type de portrait. Donc c'est en croisant cette iconographie-là et l'écriture de l'autobiographie d'Emma Goldman qu'on a réussi à essayer d'établir vraiment ces profils-là et d'essayer de les incarner pour que les personnes qui lisent ce récit-là en bande dessinée se sentent proches de ces figures qui ne sont pas juste des icônes. Voilà, je ne sais pas si ça répond un peu.
Oui, tout à fait. Alors... Une fois que la matière narrative est présente, comment avez-vous travaillé? À quel moment le dessin apparaît dans cette écriture?
Oui, c'est vrai que Léa avait commencé l'écriture du scénario et moi j'avais commencé des recherches graphiques en parallèle et on échangeait là-dessus toutes les deux avec notre éditrice aussi de Futuropolis, Marie-Agnès Leroux. Et en essayant de distinguer aussi, donc de mon côté, moi, les trois univers un peu spatio-temporels qui sont présents, que ce soit le présent de la narration, comme vous l'avez évoqué en 28, quand Emma, elle écrit ses mémoires à Saint-Tropez, que ce soit ensuite sa jeunesse, sa formation dans le New York de fin 19e, ou ensuite quand elle est en Russie pendant la révolution bolchevique. Et donc, elle écrivait des scènes. Moi, j'utilisais pour faire mes recherches graphiques, mes choix colorés pour ces moments narratifs-là, et pour essayer de commencer à faire vivre les personnages. Et ensuite, une fois que vraiment son scénario... se posait vraiment, je commençais à dessiner les scènes à partir de ses remarques. Elle me mettait beaucoup d'intentions, de notations aussi pour que je comprenne aussi vraiment l'émotion des personnages ou pour réussir à les faire vivre. Et ensuite, moi, avec tout ce qu'elle me donnait, forcément, quand on dessine, on n'a plus besoin de tous les descriptifs écrits, mais il y avait tout un aller-retour qu'on faisait toutes les trois donc avec notre éditrice pour faire avancer comme ça les personnages dans leur formation politique, mais aussi vraiment leur intimité. Donc on a vraiment travaillé en échange tout le long.
Alors, Hélène Aldeguer, je voudrais évoquer à ce moment-là l'importance de l'école estienne et notamment peut-être dans la conceptualisation d'une mise en image de choix graphiques qui vont porter la narration. Quelle importance a eu cette école pour vous?
Oui, alors c'est vrai que moi j'ai fait un diplôme des métiers d'art, ça s'appelait en illustration, à l'école estienne, qui a aussi qui est une école historique des arts graphiques publics, qui était avant une école de l'imprimerie, et qui a donc tout un sous-sol avec beaucoup de matériel d'impression, qui sont d'impression, traditionnels et artisanaux, type linogravure, typographie au plomb, il y a aussi de la sérigraphie. Et ça, c'est des techniques qu'on utilisait dans nos études et nos projets, et qui m'ont forcément, même si je travaillais moi à la bande dessinée, le fait de travailler l'illustration et les travaux d'impression, ça m'a influencé sur la question de ce que vous disiez aussi, d'avoir une palette colorée limitée et de choisir vraiment quelques couleurs pour pouvoir établir un espèce de choix graphique qui réinterpréterait le réel historique pour pas avoir... Parce que c'est vrai que je ne me situe pas forcément dans le dessin de la bande dessinée traditionnelle de reconstitution historique, qui a une grosse part d'interprétation illustrative. Et c'est vrai que les références qui nous sont données dans nos cours à l'école Estienne et aussi dans les ateliers d'impression ont vraiment été marquantes pour moi et pour mon univers graphique, entre guillemets.
Alors, il y a donc, vous avez évoqué le mot d'incarnation. Donc, votre trait est assez léger. On a deux petits points pour les yeux. Les lunettes d'Emma Goldman sont, c'est juste de forme ovale et c'est d'une très grande simplicité. Alors, qu'est-ce que vous permet cette approche du trait où on ne cherche pas le réalisme et pourtant les personnages sont vraiment incarnés. C'est Emma Goldman, c'est ses amis, ses amours. C'est...
Comment, oui, je pense comment... que... Oui, il y a plusieurs approches, disons, dans cette façon de dessiner. Bon, déjà, moi, c'est la mienne qui a été formée par voilà, des références de façon consciente et inconsciente. Et il y a aussi l'idée que, comme je travaille beaucoup sur des sujets historiques, dans lesquels il y a des iconographies, des photos, des vidéos qui sont beaucoup de ressources de travail, j'aime avoir aussi cette palette graphique réduite qui me permet d'avoir un biais d'interprétation et de pas juste reproduire des documents historiques, mais de vraiment les traduire à travers mon prisme coloré. Et comme vous dites, je pense qu'il y a beaucoup de personnages historiques, bien qu'ils soient méconnus, je pense que donc les gens ne vont pas les reconnaître s'ils ne connaissent pas déjà Emma Goldman, mais s'ils regardent une photo d'elle et j'espère un de mes dessins à côté, je pense qu'il y a certains éléments de leur visage ou de leurs expressions qui sont très reconnaissables et qu'on peut en effet avoir ces éléments assez simplifiés qui permettent tout de suite de les identifier. Et d'ailleurs, pour moi, qui permettent de mettre en avant peut-être plus les émotions, les atmosphères, et d'avoir aussi un univers graphique peut-être un peu léger, qui sort justement peut-être en termes de public. Moi, j'ai 32 ans, donc je pense que peut-être qu'il y a des références en termes générationnels qui évoluent. Et les sujets historiques, pour moi, peuvent avoir aussi une interprétation graphique un peu, voilà, un peu légère ou très... je ne sais pas, vivante et pas dans ce réalisme historique qu'on a plus l'habitude de voir et dans lequel on repère tout de suite ce type de récit. Là, j'avais envie d'avoir un pas de côté, justement, et pas m'inscrire dans cette tradition-là, mais voilà, d'avoir ce trait un peu choisi et simple.
Comment travaillez-vous la mise en scène, Hélène Aldeguer?
Alors, ça dépend beaucoup des scènes, je dirais, et des informations qu'on a, parce que c'est vrai que quand on travaille sur des histoires historiques, il y a des scènes qui sont vraiment très, très détaillées et documentées, et il y a d'autres scènes qui sont un peu plus réécrites par Léa, où elle a dû recréer typiquement des scènes dans l'intimité, où on va avoir des choses dans son autobiographie, mais pas autant que pour des moments historiques. Donc quand on a par exemple une grande manifestation connue, où on a beaucoup de documentation, je vais pouvoir l'utiliser. Mais pour des moments où elle va être dans sa cuisine, elle va parler avec ses amis, c'est vrai que là, il faut se projeter et réimaginer un univers un peu intime et se sentir proche de personnages historiques comme ça. Donc c'est des moments narratifs assez différents.
Dans votre mise en scène, vous êtes près des personnages, on est vraiment assez proche d'eux, comme si on pouvait les voir à un mètre de nous. Et puis, il y a des moments, des plans plus larges, plus lointains, le lointain est aussi présent, et donc des mouvements de foule. Et comment se fait ces choix de cases avec, par exemple, Blackwell Island, ou donc les scènes de prison, et puis ces moments de proximité avec des longues séquences où on est au plus près des personnages.
Oui, c'est vrai qu'il faut réussir à inscrire son personnage dans le moment historique, c'est-à-dire de se sentir proche d'Emma quand elle vit l'incarcération, elle vit l'isolement et les conditions de détention. Et cette peur d'être enfermée et de vivre ces violences-là. Mais en même temps, ça se situe dans une prison qui a une symbolique historique et politique importante. et que donc représenter cette prison-là, ça a du sens, c'est important. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime faire de façon générale, de naviguer entre être proche, l'individuel, et avoir des moments qui sont collectifs, qui font qu'on comprend que cette histoire-là, c'est l'histoire de cette femme, d'Emma Goldman en particulier. Mais en fait, son combat, c'est une lutte collective qui s'inscrit dans des dates historiques qui font partie en fait d'un héritage politique qu'on essaye de faire redécouvrir avec Léa. Et qu'on a donc des moments, on a une scène de manifestation où au début, on ne sait pas où est Emma Goldman et ensuite, on se rapproche des manifestants et on l'observe. Mais on navigue justement entre ces foules de gens qui sont acteurs de l'histoire aussi. Et c'est d'eux et d'elles dont on parle en parlant d'Emma Goldman. Donc on a essayé d'avoir vraiment ce récit de l'intime, mais aussi ce récit historique, puisqu'on a aussi des figures très connues comme Trotsky, Lénine, qui interviennent.
Kropotkine.
On a des lieux, voilà, Kropotkine, tout à fait, où il y a vraiment des foules aussi qui sont présentes. Et on a des lieux qui sont importants, et certains lieux sont reconnaissables, et certains sont juste des rues, par exemple, d'un New York prolétaire dans la misère, et qui sont des images aussi marquantes de l'époque.
Quelle dessinatrice êtes-vous, Hélène Aldeguer? Comment ça se passe sur votre table à dessin? Vous êtes dans une énergie, une intensité, une vivacité, ou au contraire, il y a un trait très posé?
Je pense que je suis un peu posée quand même, mais c'est vrai que pour les personnes qui connaissent déjà le métier de bande dessinée, c'est un métier qui est très chronophage, très long, et on passe des heures et des heures à dessiner à son atelier. Donc disons que moi, je dirais que je suis une dessinatrice aussi qui s'accompagne beaucoup de récits historiques à côté. J'écoute beaucoup la radio d'ailleurs, donc je suis contente d'y participer là, mais parce qu'on navigue entre des moments où on réfléchit à la mise en page, à notre storyboard ou à comment on compose la page, et il y a un moment où on fait la couleur et on y réfléchit beaucoup au début, mais ensuite ça s'intègre un peu en nous, les personnages et tout ça, et donc on est un peu plus dans un travail vraiment manuel et immersif, et c'est là que peut intervenir, moi j'estime que ça fait partie de ce moment de travail aussi, d'avoir... de continuer à écouter des choses, que ce soit sur Emma Goldman, des podcasts ou de la radio ou quoi, mais ça peut être aussi juste sur des moments historiques ou même sur d'autres luttes finalement, mais d'avoir un peu cette nourriture audio du coup, parce qu'on a les yeux déjà occupés sur notre planche, mais en tout cas, oui, je dirais que je suis plutôt posée sur mon travail graphique.
Merci beaucoup, Hélène Aldeguer. Donc, je rappelle les caractéristiques de cette biographie écrite par Léa Gauthier et que vous avez mise en image tout en participant à l'écriture. Donc Emma Goldman, femme et anarchiste, c'est publié par les éditions Futuropolis. Les 160 pages de ce livre sont au prix de 23 euros et le livre a été imprimé en France. Très bonne continuation à vous, Hélène Aldeguer.
Merci beaucoup.
Merci. Au revoir. Et on va finir avec le troisième morceau choisi par Léa Gauthier. Il s'agit de L'affiche rouge, interprétée par Monique Morelli.
Vous n'avez réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà que cela passe, vite 11 ans, vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noir de barbe et de nuit, hirsute, menaçant. l'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles. Y cherchait un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant. Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Et les mornes matins en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre. À la fin février, pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement: bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses. Adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent. Toi qui vas demeurer dans la beauté des choses. Quand tout sera fini plus tard en arrivant. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline. Que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants. Ma Mélinée, oh mon amour, oh mon orpheline. Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent. 23 qui donnaient leur cœur avant le temps. 23 étrangers, nos frères pourtant. 23 amoureux de vivre à en mourir. 23 qui criaient la France en s'abattant.
Je vais terminer cette émission avec un livre essentiel, Les Gugus en vacances. Il est signé par Émilie Glisson. Émilie Glisson est une autrice, illustratrice, elle a fait aussi du dessin animé, la partie dessin, et elle avait publié il y a 7 ans Ted, Troll de Coco, chez le même éditeur, les éditions Atrabile. C'est un livre qui avait eu un prix au Festival d'Angoulême, le prix Révélation. Et ce deuxième titre, Les Gugus en vacances, ben les Gugus, c'est la famille où on avait Ted et donc aussi Émilie, puisque Ted, Drôle de Coco, c'était raconté ce frère autiste qui bouleversait tout, qui bouleversait le quotidien. Avec Les Gugus en vacances, dès la couverture, il y a ce mouvement absolument trépidant apporté par les personnages qui sont en train de courir dans des attitudes assez incroyables. Le deuxième plat de couverture continue, poursuit cette présentation. Et en fait, tout au long du récit, tout au long de ce très grand nombre de pages, c'est assez imposant comme livre, mais c'est un livre donc de pratiquement 200 pages, 184 exactement. Il va y avoir cette écriture à la fois autobiographique et fictionnelle. Ça ne peut pas être autrement lorsqu'on se plonge dans l'histoire. Il y a cette dimension de la fiction qui est portée par le trait lui-même. Et donc, le récit va être, comme le nom l'indique, eh bien, cette famille composée du père Boris, de la mère Doris et des 3 enfants, Balou, Eleana et bien sûr Ted. Donc, le récit. La famille Gugus est au complet et s'apprête à prendre l'avion direction le Yolkham pour célébrer le mariage d'une cousine. Et les valises sont à peine closes que déjà c'est le chaos. Ted s'est enfermé dans les toilettes qu'il vient de boucher, puis le RER qui mène à l'aéroport annonce un dangereux retard, le sac de pique-nique a été confondu avec une poubelle à jeter, un marginal agresse la famille, tout ça alors que le voyage n'a même pas encore commencé. Tout est sur ce principe-là, c'est-à-dire que les choses ne peuvent pas aller facilement, sereinement, on ne peut pas maîtriser. Et il y a donc dans ce petit résumé, surtout ce résumé du début de l'histoire, effectivement le cadre d'un emballement du récit qui va, il ne va pas cesser de s'intensifier. Il y a pour l'instant, il y a dans ce récit une loi de Murphy qui est souvent convoquée. Cette loi de Murphy, elle dit « Tout ce qui est susceptible d'aller mal, ira mal. » Et donc, le récit est constamment émaillé de perturbations plus ou moins importantes, mais parfois elles le sont réellement, qui fait que rien ne peut se passer normalement. Il y a une surprise dans l'écriture qui fait que, à des moments, on a vraiment des choses qui deviennent complètement délirantes. Lorsque la famille, les Gugus, arrivent donc dans le Yolkham, dans le lieu familial où on va les héberger, à un moment, il y a les toilettes qui se bouchent et ça devient complètement délirant. Et là, c'est une des grandes forces de l'écriture d'Emily Gleeson, c'est justement de dire jusqu'où ça va aller mal, de dire ce que l'inquiétude peut créer comme malaise. Alors plutôt que de simplement le laisser au stade de l'inquiétude, c'est de le représenter pour montrer à quel point cette concrétisation peut être une sorte de fantasme douloureux où on a peur, on est inquiet par cette perturbation quasi constante du quotidien. Pour traduire ce récit absolument délirant, Emily Gleeson choisit une mise en page, une mise en image, souvent basée sur un 5-bandes. Donc on a 5 bandes d'images avec une hauteur relativement réduite et qui va raconter en étant au plus près des situations, en les détaillant, en permettant d'avoir ainsi tous les éléments, de rajouter aussi des détails pour que cette perturbation profonde du quotidien, de tout ce que l'on avait pensé, imaginé et envie de réaliser, ne puisse pas se faire. Et on a un style graphique très marqué, très incisif, très direct, qui ne s'encombre pas de mise en forme délicate, mais qui est toujours dans l'expression des situations, des personnages, avec vraiment un dessin très humoristique. Il y a du Jacovitti là-dedans, mais avec encore plus de liberté dans le trait de la représentation. Et il y a une utilisation, par exemple, de séquences avec une unité de lieu, avec une unité de temps. Donc on a des cases qui sont identiques, qui vont se succéder et qui, sur une page, avec le dialogue, vont déployer une situation avec beaucoup d'efficacité. Et puis, il y a toutes ces perturbations qui sont fantasmées, mais qui vont apparaître avec soit un dessin au feutre plutôt qu'avec ce trait de contour léger, avec des perturbations graphiques. Les personnages vont être complètement transformés et vont prendre des trognes plus que des visages. Et il y a donc, tout au long de ce récit, une lutte pour s'émanciper de ce rôle très perturbateur du quotidien, de retrouver une normalité, ce qui paraît très difficile, notamment après la lecture de Tête drôle de coco, qui montre ce qu'est le quotidien avec un frère autiste. Mais là, il y a vraiment cette façon dans ce récit frénétique, avec cet ensemble et cet enchaînement de situations qui deviennent abracadabrantes, cette émancipation des personnages. Et il y a un moment, vers la fin du livre, Eliana s'exprime et dit « Je crois que ça y est, j'en ai marre de courir, de vouloir plaire, de subir, de m'exécuter, de me conformer. J'ai enfin envie de me connaître. Mais s'il te plaît, je m'exprime. Je m'exprime car je suis une personne à part entière et non plus une compie conforme ni ta propriété. Je peux enfin avoir un avis, mon propre avis, mes propres goûts, mes passions, mon rythme. Partir à l'heure, par exemple. Et là, bien sûr, la situation va continuer. C'est un livre complètement hors norme, hors classe, hors habitude, qui va vous surprendre, mais qui va montrer à quel point la bande dessinée peut être d'une grande force d'écriture, et notamment à partir de situations comme celles qu'imagine et raconte Emily Gleeson. C'est une autrice, illustratrice, qui a un site internet à voir, avec là aussi une très grande liberté d'écriture, et ne serait-ce que regarder ses illustrations et vous allez voir la grande étendue de son talent. Les Gugus en vacances d'Emily Gleeson est publié par les éditions Atrabile. Atrabile est un éditeur suisse qui est soutenu par la Cité internationale de la bande dessinée de l'image. Pardon, c'est l'œuvre qui a été soutenue par la Cité internationale de la bande dessinée de l'image et du Grand Angoulême et de la ville de Zapopan au Mexique. Et la maison d'édition Atrabile bénéficie, elle, du soutien de la République et canton de Genève pour les années 2023-2026, ça c'est intelligent, une aide sur 3 ans, et du soutien de l'Office fédéral de la culture pour les années 2021-2025. Donc là aussi, c'est un accompagnement digne de ce nom. Eh bien, Les Gugus en vacances est paru dans la collection Flemme. Les 184 pages sont au prix de 21 € et le livre a été imprimé en Italie. Je vous souhaite de très bonnes vacances de Noël à tous et merci Issa pour cette technique. Bonne année à tous. Écriture dessinée.